Chapitre 10. Il n'y avait qu'une petite rue à traverser pour se rendre de l'hôtel de la Paix, où étaient logées Madame Cassagnol et sa fille, au magasin de chaussures de la rue Saint-Jean. Amélie s'y rendit seule ce matin, sans chapeau et sans gants, aussi familière qu'autrefois. C'était d'assez bonne heure. M. Mourez, qui ne souffrait pas trop de ses rhumatismes, achevait son bol de café au lait sur la banque. Amélie le salua d'un bonjour doucereux et, sans s'arrêter une seconde, pour éviter ses gémissements éternels, elle s'en fut, aussi leste qu'une sauterelle, dans la cuisine, monter l'escalier. Au second, Madame Mourez, un foulard sur la tête, un balai à la main, abandonna aussitôt sa besogne de ménagère et regarda l'enfant. « Te voilà, mamie !»«
Oui, je suis venue seule. »«
Tu as bien fait. »«
Vous travaillez toujours ?»
« Il le faut bien. Ma mère n'est plus là. Et toi, tu viens voir Gustave ?»«
Parbleu, il est là-haut ?»«
Oui, comme autrefois. Alors, on continue à bien s'aimer ?»«
Je le pense. »
Madame Mourez, au seuil de sa chambre, s'appuya contre le cadre de la porte, une de ses grosses joues posées sur une main. Sous son regard de tristesse mal résignée, Amélie, qui était patiente d'ordinaire, éprouva une honte invincible de la trahison qu'elle avait commise. Elle n'eut plus la force de bouger. Madame Mourez, par compassion, la délivra. « Allons, monte chez Gustave, il sera content. » Amélie, sans trouver le moindre remerciement, grimpa les marches hautes de l'escalier qui devenait plus étroit. Gustave, qui, de son balcon, admirait sur le toit velouté de mousse de la maison voisine les jolis étincellements du soleil, fut stupéfait de cette matinale apparition d'Amélie, qui n'aurait plus imaginé possible dans sa solitude. Il eut une gêne d'autant plus vive qu'il la sentait animée d'une affectation de gentillesse. Elle ne se souvenait certainement pas du deuil de la maison. Elle ne se présentait chez lui que par intérêt. Ils se rapprochèrent l'un de l'autre sans dire un mot, d'abord troublés, sous un maintien de calme et de modestie, par l'émotion de se reconnaître de nouveau seuls dans cette chambre pauvre, imprégnée de leurs chastes et si douces promesses d'amour. Amélie lui prit les mains, les garda un moment entre les siennes. Il respira son visage rose, frais comme un ruisseau, le parfum de sa toilette légère. Mais il se défendait de toute joie qui lui semblait un péché.
« Vous ne m'attendiez pas ?» dit-elle.
« Ma foi, non. »«
Ce n'est pas bien. Autrefois, vous m'attendiez toujours. »«
Ah, autrefois. Ce temps s'est dissipé comme un rêve. »«
Croyez-vous que je l'ai oublié ?»«
Moi, non, je n'ai rien oublié. Vous, au contraire ?»«
Moi non plus. »«
Je n'y comprends rien. » Ici même, le jour où je vous ai remis vos lettres, à la veille de votre grand départ pour Paris, vous m'avez fait le serment d'une fidélité à toute épreuve. Puis, de Paris, vous n'avez pas daigné m'écrire une seule fois. Vous m'avez même caché votre adresse.
Gustave, ayez pitié de moi, si vous saviez la peine que me font vos reproches.
Devant une inconscience si ingénue ou si habile, Gustave tressaillit d'étonnement, puis de compassion, ainsi que sa mère, en son cœur généreux de poète. Ils s'assirent, comme d'habitude autrefois, lui à sa table de travail, sur le fauteuil au siège de paille à demi dépouillé, elle sur le fauteuil à la soie jaune déchirée. Elle releva le front et dit
« Savons-nous ce que nous réserve l'avenir ?
Mon Dieu, nous le savons à peu près. »
Pour parler du passé, ma mère n'accepterait à aucun prix que je revinsse me fixer à ma reine.
Voilà, par exemple, une excuse imprévue de votre infidélité.
Je n'aurais jamais supposé que vos parents vous auraient permis de me rejoindre à Paris.
Pourquoi cette supposition ? Paris n'est pas plus dangereux pour moi que pour vous. Et pour vous rejoindre, où ne serais-je pas allé ?
Pas à Paris, je ne le croyais pas.
Enfin, quand je vous eus retrouvé grâce à l'excellent Papette, d'autres amitiés vous avaient prises, et vous n'étiez plus ma compagne, l'amie de mes rêves.
Mais Gustave, je ne suis pas fiancée du tout.
N'essayez pas de nous tromper par d'agréables mensonges. Ici, au milieu de toutes ces humbles choses qui évoquent pour nous nos espérances trop belles d'un temps qui me semble très loin.
D'ailleurs, je souhaite, avec une sincérité dont vous ne douterez pas, que vous soyez heureuse à Paris, auprès de celui que vous avez le droit de me préférer. »
Vous le dites bien, on est souvent la dupe de son imagination. N'avez-vous pas rompu vous-même les doux liens qui vous attachaient au passé ?
À ces mots proférés d'une voix souriante, et qui, pourtant, rappelait avec hardiesse la jeune fille de son maître, Jeanne Rucoin, Gustave eut un mouvement de dépit, d'irritation mal contenue.
Est-ce que vous me reprochez, répliqua-t-il, la faute que j'aurais commise de m'abandonner au charme de notre amour ? Réfléchissez que j'étais seule dans Paris, en proie aux misères de la pauvreté, du découragement. J'étais presque vaincue, humiliée. Une ombre me chassait vers ce pays de ma reine qui n'avait plus pour moi ses ressources de beauté. Et un jour, dans ma détresse, j'ai rencontré l'âme lumineuse et bienfaisante d'une jeune fille qui, peu à peu, sans prétention, à son insu peut-être, m'a rendu la force de travailler, de croire en moi-même. Mon cœur, que la douleur avait épuisé et qui ne peut pas rester sans amour, s'est retrempé à une nouvelle source d'espérance. Voilà ma confession, Amélie.
Vous étiez libre, du moins vous l'avez pensé, et trop tôt, qui sait ? Je ne veux pas mettre en doute le dévouement de la jeune fille qui... Oh, ne l'effleurez pas du moindre soupçon, car pour tout le bien qu'elle m'a fait, je la bénis. Nous n'avons pas de fortune, elle ni moi, nous n'avons pas échangé le moindre aveu, la moindre promesse. Mais nous comprenons que des émotions communes de piété familiale, de tendresse et de simplicité doivent nous associer fatalement un jour dans ce grand Paris où la courageuse volonté de braves gens a souvent raison des choses qui sont souvent méchantes. Néanmoins, Amélie, je n'oublierai rien de notre charmant passé, car je veux avoir la loyauté, puisque je n'ai de quoi que ce soit aucun repentir, de raconter à celle qui deviendra ma compagne le poème de ma jeunesse où j'avais enfermé, avant de la connaître, le meilleur de moi-même.
Vous lui parlerez de moi ?
Je n'aurai pas besoin de vous nommer. Elle a trop de sagesse clairvoyante pour n'avoir pas deviné en vous ma première muse. Vous resterez dans le ciel riant de mon passé, comme une étoile, toujours, et je ne craindrai pas, du milieu de mes satisfactions ou de mes peines, de me tourner vers vous et de vous accompagner de mes vœux les plus amicaux.
Vous êtes bon, Gustave, je le sais. Si nous ne pouvons pas encore juger notre passé, il m'est précieux d'apprendre que vous daignerez quand même, malgré tout, me servir aujourd'hui, n'est-ce pas ?
En quoi puis-je vous être utile ? Je suis si peu de choses.
Ma mère désire que vous veniez avec nous, cet après-midi, vous promener du côté de Rocas.
Moi, avec vous ?
Et, malicieux, content de se venger enfin d'avoir été méprisé naguère, il ajouta :
Votre mère ne rougira donc plus de se montrer en ma compagnie ?
Oh, Gustave, vous manquez de charité à présent !
Elle insista si patiemment et d'une grâce si flatteuse, puis, avec sa hardiesse de tout à l'heure, l'accusant d'avoir peur, lui, de se montrer auprès de sa mère, dans les rues où bourdonnaient les commérages, qu'il finit par céder.
« Eh bien, dit-il, venez cet après-midi me prendre au magasin. »«
Ah, merci, Gustave !» Ils se serrèrent les mains en braves camarades, lui, heureux encore de la voir toute frémissante, jolie de sa victoire. Ayant à peine franchi le seuil de la chambre, elle s'arrêta sur le palier avec une soudaineté si imprévue qu'il dut la heurter aux épaules. Elle se détourna, non sans vivacité, espiègle, troublante, pour lui sourire de ses yeux bleus et, dans l'insouciance du deuil qui attristait la maison, lui offrir peut-être une caresse. Par pudeur, par dignité, il recula. L'escalier jusqu'au second étage descendait rapide, aussi obscur qu'un puits. Elle parut s'y plonger d'un élan joyeux qui agita sa robe légère. Gustave regagna lentement, dans une sorte de mélancolie, sa table de travail. Sachant, depuis que la douleur l'avait rendu plus souple, discipliner son intelligence et sa sensibilité, il s'efforça de s'absorber dans la création d'un ouvrage qu'il comptait, dès son retour à Paris, soumettre à une maison d'édition. Après dîner, midi, ce fut sans autre émotion que celle de se séparer de son père et de sa mère jusqu'au soir qu'il suivit Madame Cassagnol et sa fille au penchant de la rue vers le Planol. Il faisait un de ces purs soleils d'avril qui découvrent sur les tuiles blondes des toits les moindres brins d'herbe et qui poudrent d'une lumière rose les vieilles façades inclinées par l'âge. L'atmosphère était d'une limpidité de cristal. On entendait sur les routes, très loin, au creux des chemins les plus cachés, rouler des carrioles. Madame Cassagnol, afin d'échapper aux médisances du monde, qui est si curieux de connaître les soucis du prochain, voulut traverser le faubourg de la gare, parce qu'il est à peu près désert, et ensuite emprunter la grande route, non le chemin bas des Amandiers, où se trouvait la maison de Papette. C'est alors seulement, parmi la paix adorable de cette campagne, encore illuminée de ses rêves d'amour, que Gustave devina l'intention de Madame Cassagnol d'aller à Rocca saisir, dans l'accueil de sa sœur Marguerite, quelque chose des véritables sentiments de leur père. D'abord, cela le chagrina de paraître de connivence avec elle en ses calculs d'intérêt. Puis il espéra que Marguerite, sachant ses griefs d'amoureux dédaignés, comprendrait bien qu'il avait dû, par courtoisie, céder aux instances de Madame Cassagnol. Et même, ne serait-il pas là, au milieu d'elle, pour empêcher quelque vilenie ? Détaché qu'il était, ou qu'il croyait être, des soucis qui occupaient ses compagnes de promenade, il voulait, de toute son âme, goûter uniquement la poésie délicate de son terroir. Celle-ci, cependant, babillait constamment, en affectant une gaieté puérile. Pour flatter Gustave, elle vantait à tort et à travers la couleur ou la richesse des cultures, qu'il admirait, lui, avec sincérité. Il ne les écoutait pas beaucoup, simplement ému quelquefois par le souvenir des courses buissonnières que, tout enfant, il faisait sur une colline sauvage où, plus jamais, probablement, il ne porterait ses pas. La route gravissait un coteau âpre vers le ciel qui ruisselait d'une fine nappe d'or. À gauche émergèrent bientôt, du sein des feuillages grêles des amandiers, quelques maisons du hameau de Rocas. À la première maison, sur la droite, ils entrèrent chez les Bardol. Marguerite avait appris, comme tous les gens de la ville, l'arrivée subite de sa sœur et de sa nièce. Ainsi que son mari, elle avait compris sans peine que Rose ne s'était mise si précipitamment en voyage que pour essayer de sauver sa part de l'héritage paternel. Elle ne fut donc à demi surprise, quoiqu'elle s'efforçât de le paraître tout à fait, lorsque, sortant du fournil, un gros pain chaud entre les bras, elle vit sur le seuil du portail les deux Parisiennes qu'accompagnait le fils Mourez. « Tais !» s'écria-t-elle, « par exemple, quel bon vent vous amène !» Et, dissimulant son désarroi par une agitation fébrile, elle entra dans la maison, déposa le pain sur le bord d'une table, puis elle se détourna vivement pour embrasser les Parisiennes, lesquelles, d'ailleurs, avec un élan d'amitié d'autant plus empressé qu'elle démontrait ainsi ne pas craindre les souillures de la farine, s'abandonnaient à son étreinte. Après quoi, Marguerite se confondit auprès de Gustave en félicitations sur ses succès littéraires que tous les messieurs de Marraine célébraient à l'envi, et elle se lamenta d'une façon excessive sur la mort de cette brave mamette de la rue Saint-Jean. Dans la longue cuisine noire où elle s'était avancée doucement, à la lueur du feu, Madame Cassagnol aperçut son beau-frère, le rustre Prosper Bardol, et ses trois enfants qui, installés autour d'une table ronde, n'avaient pas cessé de manger. Prosper n'avait pas revu, au moins de près, Madame Cassagnol depuis 4 ou 5 ans. Il la connaissait à peine. Comment aurait-il eu l'idée qu'elle lui ferait aujourd'hui l'honneur de sa visite ? Il était petit, maigre, desséché par la fièvre du travail qui lui procurait ses joies les meilleures, après celle d'embrasser sa femme et de soigner ses enfants qui ne le quittaient guère, tous les trois aussi bruns qu'il était roux, mais, autant que lui, nerveux et pointu. Il n'avait pas rasé sa barbe depuis dimanche et c'était jeudi, de sorte que ses joues se hérissaient déjà d'une couche d'épines roussie par le soleil. Il y avait dans ses yeux bleus une étrange beauté, une limpide lumière de pensée qui lui venait sans doute de l'habitude de se taire, de rêver parfois parmi les champs silencieux. Devant sa belle-sœur, qu'il redoutait un peu à cause de son vice d'oisiveté et de ses prétentions, il s'intimida dès le premier instant. Ce fut avec un lourd balancement de tout son corps qu'il lui tendit la main et lui sourit de bonne grâce, malgré sa honte involontaire, des privilèges que Papette Rességuier avait eu l'idée imprévue d'accorder récemment à Marguerite. Les enfants, par imitation, se levèrent rouges de pudeur en mâchant un morceau de pain, en réprimant une seconde l'envie de pleurer. Madame Cassagnol et sa fille les embrassèrent tous les trois sans trop de façon et affectèrent gentiment de rire. « Que je ne vous dérange pas !» dit Madame Cassagnol à son beau-frère. « Vous devez avoir besoin de vous réconforter. »«
Ça oui !» répondit Prosper, qui évitait, par timidité encore, d'appeler Rose par son nom. Depuis ce matin, on purgeait de ses cailloux le coteau de Cantagril. Et je vous assure que le travail, c'est le meilleur des apéritifs.
Parbleu, quel travailleur vous êtes et que d'argent vous devez gagner.
Pas tant que ça. Il y a trop de maladies aujourd'hui à la propriété. Et les engrais coûtent cher depuis la guerre. Et la pluie et la grêle.
Prosper commençait l'éternelle antienne du paysan prêchant misère lorsque Marguerite l'interrompit.
« Mange, mange, ton fricot sera froid. »«
Et alors, Rose, vous voilà donc revenue au pays ?»
Rose, qui pétrissait son ombrelle sur ses genoux, non sans embarras, répliqua
« Oui, on nous envoyait d'assez mauvaises nouvelles de mon père. Nous avons voulu vérifier la chose nous-mêmes. »«
Il est toujours pareil. »«
Tu crois ? Vous le voyez si souvent que vous ne remarquez point de modification dans l'état de sa santé. »
On ne le voit pas plus qu'auparavant.
Ah, t'es, ce n'est donc pas vrai que ces jours-ci, vous êtes allés ensemble à la ville?
Qui a dit ça? Maugréa Prosper sans lever la tête.
On m'a même assuré que Marguerite a accompagné mon père chez le notaire Cazoul. Est-ce vrai?
Marguerite s'agita sur sa chaise, puis se tourna du côté de son mari, qui, par prudence, la sachant assez rouée pour se défendre avec avantage, se taisait. Enfin, ayant une admirable force de dissimulation, elle éclata de rire.
Qui t'a encore dit ça? Eh oui, pardi, c'est vrai. Mais en quoi notre visite chez Cazoul peut-elle intéresser le monde?
Rose fut, à son tour, déconcertée dans sa méfiance. Devant l'air d'innocence, la jovialité presque niaise de Marguerite, elle se fit un moment le reproche de lui avoir suggéré le dessein d'un méfait. Dans le frémissement de la conversation, aussi bref que le souffle d'une bourrasque, il n'avait pas vu que Gustave s'était, par discrétion, esquivé jusqu'au milieu de la cour. D'ailleurs, Rose continua plus à l'aise son interrogatoire.
« Notre père est vieux, tu comprends, Marguerite. Moi, je suis si loin, à Paris, qu'il pourrait m'oublier. Ça me ferait du chagrin de supposer que, dans une espèce de vengeance contre moi, tu pourrais le seconder. » Car il n'est pas content que j'habite Paris.
Non, il n'est pas content. Tu vois que je suis franche.
Mais que d'histoire, Pécaire! Tu sais bien que je n'ai jamais cherché à obtenir seulement justice de mon père, qui m'a toujours beaucoup négligé, moi. Comment donc aurais-je osé maintenant le tourmenter dans sa retraite, où il a le droit de mourir tranquille?
Je sais, tu es honnête, tu ne m'as jamais voulu du mal.
« Seulement, ce n'est pas ma faute si nos deux conditions ne sont pas égales. »«
Oh, je me moque des apparences. J'aime ma ferme, mes poules, mes bêtes, toute ma propriété. »«
N'empêche que tu es allé chez M. Cazoul. »«
Eh bien, après, si je suis allé chez M. Cazoul pour mes affaires et que j'ai besoin des conseils de mon père,
ça, par exemple, ça ne regarde personne. »«
Pardi. » Et de quoi se mêle le monde? Est-ce qu'on cherche à nous brouiller, toi et moi?
Peut-être. Tout de même, je ne tiens pas à l'argent, tu me connais. Mais si j'étais frustrée de ce qui doit me revenir...
Ce qui doit te revenir, tu l'auras.
Pardi, je ne suis ni mon père, ni le bon Dieu, mais je puis te prouver que je n'ai rien fait ni rien dit contre toi. Pas vrai, Prosper?
Le paysan remua ses petits poings rugueux sur la table et lui aussi, éclatant de rire, sans regarder néanmoins la parisienne, répondit
« C'est vrai, d'abord nous ne sommes pas des menteurs. »
D'un geste large, il se versa un verre de vin. Marguerite, qui, dans le souci de ses intérêts, avait manifesté un esprit de résolution aussi impérieux que celui de Rose, poursuivit
« Alors ce n'est que pour l'héritage que tu es venu de Paris ?»
Pourquoi te le cacherais-je plus longtemps? Toi, tu surveilles bien tes affaires.
Oui, et j'ai raison. Chacun est libre de sa conduite. On ne s'est jamais permis de surveiller la tienne.
Jamais, confirma gravement Prosper. Si je ne veux pas qu'on me fasse du tort, je n'en souhaite pas aux autres.
Très bien, mon beau-frère, je n'attendais pas moins.
Prosper, qui s'était mis debout, ne laissa point Rose achever sa phrase. Essuyant d'une main le bord de la table,
paraissant de l'autre brandir une pioche, il riposta, en maître qui ne s'inspire que de sa conscience. Nos affaires sont réglées de telle sorte que personne ne pourra jamais nous chercher querelle. Je n'ai jamais rien réclamé de ce qui n'est pas à moi. Quant à ce qui est de Papette, je ne lui ai jamais soufflé mot de sa fortune, ni lui à moi. Quant à vous autres, les Parisiens, nous étions amis, j'entends que nous le restions. » Prosper s'exprimait avec une telle énergie que Rose, n'ayant plus l'élan de lui opposer une résistance, désespéra de lui arracher un mot de la vérité profonde. Et l'orgueil, la pensée que des paysans frustes n'osaient pas mentir à une bourgeoise de sa condition, étouffa les soupçons, au moins à cette heure de trouble et de défaillance. Néanmoins, elle s'ingénia à envelopper sa sœur et son beau-frère de flatteries, les remerciant d'avoir toujours compris son affection sincère, malgré les apparences, et toléré qu'elle ne les fréquentât pas aussi souvent qu'elle l'aurait voulu. Les Bardol, patients et attentifs, laissaient la Parisienne se griser de ses illusions de gloire. À leur tour, ils la flattèrent du sourire de leurs regards étonnés, de la douceur de leurs manières modestes. Puis, dans un besoin de secouer leur âme un peu lasse d'une si longue contrainte et de répandre généreusement, en compensation de leurs gains cachés de l'héritage paternel, quelque chose de leur lieu et d'eux-mêmes, ils offrirent du muscat, des biscottins de marraine, des fruits de leur verger, conservés depuis l'automne dans l'armoire de la cuisine. « Oh ! Dit Rose, je vous ai dit de ne pas vous déranger. »« Si, si, tais, vous me fâcheriez de ne rien accepter. » « Alors ? Eh, Gustave, où est-il passé ? Eh bien, dites-moi, celui-là, on raconte qu'il réussit dans votre pari. Vous devez le voir souvent comme de juste. »« Parbleu, très souvent. Tu comprends que nous l'avons habitué à cette vie parisienne qui ne ressemble pas à la vie de ma reine, tu peux me croire. »« Je m'en doute. Nous l'aidons tant qu'on peut, ce garçon loyal. » Rose s'évertua de son mieux à louer les qualités et les mérites de Gustave. Elle espérait bien que, de la ferme des Bardol, ses louanges s'en iraient jusque chez Papette, la servir elle-même. Gustave, toujours rêveur, amusé de redevenir simple parmi la tranquillité des choses simples, observait dans la cour le va-et-vient des poules picorant des cailloux, des grains d'avoine et trois canards barbotant dans le ruisseau gras de la fontaine. Marguerite, à toute force, le ramena vers la maison. Prosper descendait par une trappe, devant la cheminée, quérir au plus frais de la cave une bouteille de muscat. L'un des enfants frottait la table, l'autre essuyait des verres, le troisième courait à la fontaine remplir une cruche. Dégourdi, espiègle, il se poussait du coude quelquefois, clignait des yeux, non sans malice, vers les Parisiennes dont les parures mettaient une fleur d'élégance dans l'ombre de la maison rustique. Gustave déboucha la bouteille légère et, l'inclinant avec précaution, la distribua pieusement à jolis glouglous dorés. Prosper, dont la joie exubérante donnait du cœur à son épouse, leva son verre et trinqua en l'honneur de toute la société et même des absents. Rose, afin d'être agréable et surtout d'atténuer par sa précipitation son invincible répugnance, vida son verre d'un trait. Ensuite, séchant ses lèvres à petits coups de son fin mouchoir, elle félicita le paysan de posséder une liqueur si savoureuse. « C'est moi qui la fabrique avec les raisins de ma treille !» s'écria celui-ci glorieusement. « On le voit, dit Amélie, n'est-ce pas, Gustave ?» « Oui, c'est du sang de nos vieux cailloux de feu en bouteille. Et les étrangers continueront à médire de notre pays de l'Hérault, qui s'enorgueillit pourtant des crus de Saint-Georges, de Lunel et de Frontignan. » Marguerite, après un silence, interrogea timidement sa sœur aînée. « Vous resterez longtemps à ma reine ?»« Je ne sais pas, cela dépendra de la santé de Papette. »« Oh, il se porte si bien !» Il me paraît triste, trop recroquevillé dans sa maison. Il devrait en sortir un peu, que diable! Au contraire, c'est sa maison qui le conserve. Enfin, à bientôt. Pour moi, je suis bien aise de savoir qu'on nous avait menti à propos de ta démarche chez le notaire. Vois-tu, les gens ne savent jamais ce qu'ils disent. Marguerite, entourée de ses enfants badauds, accompagna dans la cour, jusqu'au portail, les deux Parisiennes et leurs compagnons, toujours gentils. Prosper marchait en arrière, lentement, docile, encore plus gai, frappant de temps à autre Gustave sur l'épaule pour se distraire. Dans le chemin poudreux, on n'en finit plus de se manifester de l'amour par des salutations et des accolades dont Prosper ressentait quelque fierté, puisque quelques terreux du hameau l'épillaient du haut de la placette. Brusquement, Madame Cassagnole entraîna vers la grande route sa fille et Gustave. Elle feignit d'abord une certaine insouciance. Mais Gustave, devinant bien l'anxiété que, par amour-propre, elle refoulait devant lui, se divertit un moment avec une intention de taquinerie et, par représailles, à l'exaspérer dans ses sentiments de mépris et de haine jalouse, et il fit l'éloge de ces paysans qui savent seuls acquérir ici-bas la véritable félicité puisqu'ils vivent sans surprise, sans ambition, sur leur terre fidèle. « Ils vivent dans l'ombre et la poussière comme des bêtes, » maugréa-t-elle. « Bah, ils ont bien aussi le grand soleil. Ils goûtent plus fortement que nous les jouissances de ce monde parce qu'ils ne peuvent pas en abuser. Et puis, ils n'ont de bête que l'apparence. »« Certes, ils dissimulent à merveille. » »« Dame, leurs moyens de défense ne nous choquent que parce que ces moyens ne sont pas les nôtres. »« Tenez, je ne suis pas parvenue à leur arracher un seul mot de la vérité. Qu'en penses-tu, Amélie ?» Celle-ci, gênée de montrer devant Gustave son souci de la question d'argent, répondit « Je crois qu'on a dû les calomnier. Rappelle-toi, maman, que cette petite ville est remplie d'envieux qui ne nous ont pas ménagés non plus, nous autres. Oui, je sais bien, tout de même, j'ai peur. Et si je vais chez le notaire Cazoul me renseigner, ce sournois se retranchera derrière le secret professionnel. » « Naturellement, » ajouta Gustave, « et puis, voyez-vous, personne ne changera rien aux dispositions de Papette Rességuier. Il maintient avec énergie ce qu'il a une fois décidé. » Rose donna raison à Gustave, mais par dédain à l'égard de ses paysans de Rocasse, elle s'abstint de prononcer désormais leur nom. Ce fut avec une satisfaction involontaire que, dans la grisaille du crépuscule, à la porte de l'hôtel de la Paix, il prit congé des deux femmes. Il trouva chez lui un télégramme de M. Rucois lui enjoignant de rentrer sans retard à Paris. Si la pensée de quitter ses parents de nouveau le frappa de tristesse, il vit du moins chance véritable dans la possibilité de se délivrer de Mme Cassagnole, dont il appréhendait chaque jour davantage l'insinuante domination. Il employa la matinée du lendemain à s'en aller à travers la ville dire bonjour à ses amis. Après dîner, il s'en fut chez Papette. Mais au jardin, il ne rencontra personne. Est-ce que Papette se dérobait par la fuite aux obsessions de sa fille? Non, il n'était pas sorti depuis longtemps et le beau soleil de cet après-midi l'avait rappelé au cœur de la plaine. Là-bas, tout menu, courbé dans l'ombre des roseaux, il suivait d'un pas de promenade un sentier conduisant à la rivière. Ça et là, il s'arrêtait, un moment de songerie, pour regarder au loin, sur la butte de granit, le château de Rocasse, autour très blanche dans la lumière. Quelquefois, il cherchait, sur la droite du hameau, parmi le feuillage des amandiers, la ferme laborieuse, à laquelle, maintenant qu'à son âge tant de choses l'avaient déçu, il désirait donner le meilleur de son âme, de même que, par acte notarié, il avait transmis à Marguerite tout le bien acquis par son propre effort. Tout à coup, il entendit derrière lui le bruit d'un pas rapide. S'étant aussitôt retourné, non sans ennui, il frissonna de bonheur à la vue de Gustave. « Oh, c'est toi ? Mais oui, bonjour, Papette. Que tu es aimable de m'avoir poursuivi jusqu'ici. Il fallait bien, je repars ce soir. Déjà, et tu vas me laisser seul ? Vous n'êtes pas seul, voyons. Ma foi, si, presque. Viens. » Papette prit le bras de Gustave pour s'y appuyer un peu, et l'épiant de temps à autre, il soupira de détresse. « Alors, tu t'en vas ? Monsieur Rucois me réclame par dépêche. Alors, tu as raison, le devoir avant tout. Toi, du moins, tu reviendras. Tu tiens à ton pays. Moi, chaque fois que je rentre à la maison après une promenade, il me semble que c'est fini, que jamais plus mes yeux ne verront la lumière de mon ciel, la poussière de mes chemins, et que mes oreilles n'entendront plus la voix de nos terroirs, qui m'est si douce, même lorsqu'elle me rappelle de tristes échos de mon passé. Et je fais mes adieux à la terre, comme tu viens de me les faire à moi-même. Allons donc, quand on se porte comme vous, on ne doit pas se décourager ainsi. Pardon, ne proteste pas. Je subis la loi inéluctable. Il vaut mieux que je m'en aille à présent que j'ai ma raison intacte et ma conscience claire. Je ne voudrais pas déchoir progressivement dans une caducité laide et maussade qui imposerait à mes enfants trop de tracas. En outre, il y a des batailles de famille auxquelles je préfère ne pas assister. » Gustave, ému par tant de sagesse, l'écoutait avec respect. Après un silence, Papette ajouta « Je suis resté assez longtemps ici-bas. Je n'ai plus rien à y faire. Cependant, je regretterai mon jardin, ma maison, ma jolie petite ville de Marraine, mes rares amis, ton père et ta mère. En quelles mains tombera-t-il mon modeste domaine ? Et si rustique, qui donc en aura l'envie ? Car je n'ai pas pu le vendre encore. Mais je l'ai chargé d'hypothèque en empruntant au notaire Cazoul une somme importante qui, à cette heure, est en lieu sûr, je t'en réponds. Enfin, je te regretterai, toi surtout, mon fils, toi que ma fille n'a pas compris, ce dont elle est fâchée maintenant, je crois. Mais trop tard. Sans doute. Oui, tu n'oses pas dire qu'aujourd'hui tu n'accueillerais pas ses prières. Tant pis, tu ne céderas pas, ni moi. Espérons que l'adversité, en les contraignant, elle et sa fille, à subir cette autre loi du travail, leur fera du bien. Allons, inutile de prêcher. Une des joies que j'emporterai dans la mort, c'est d'avoir constaté en toi une volonté vigoureuse et droite. J'avoue qu'autrefois, je raillais, comme nos compatriotes, tes fantaisies littéraires. Pourtant, tu as persévéré dans ton ambition, malgré les pires obstacles. Je suis donc tranquille sur ton compte, tu as foi en toi-même, cela est rare. Déjà, tu as obtenu des succès, ton maître t'estime. Ah, excellent homme, ce vieux poète de ma génération, qui t'a ouvert si franchement son foyer, où tu as trouvé, n'est-ce pas, l'ange gardien de ton esprit et de ton cœur. Allons, ne rougis pas, si tu aimes cet enfant, pourquoi ne le dirais-tu pas au pauvre ermite que je suis ? Oui, je l'aime, murmura Gustave d'une voix tremblante. J'espère que nous reviendrons, elle et moi, ensemble revoir votre maison et vous embrasser. Oh, n'essaie pas de me tromper, moi je ne serai plus ici, j'irai bientôt rejoindre ta brave mamette. » Le jardin brillait devant eux, oasis de fraîcheur et de mélancolie, dont les arbres immobiles semblaient attentifs à leurs paroles d'adieu. « Veux-tu entrer dans la maison une minute ?» Gustave accepta l'invitation avec la pensée pieuse de mettre à jamais dans ses yeux l'image du logis où, dans l'ombre et la solitude, le vieux paysan s'apprêtait à mourir. Mais ils entendirent des pas hésitants grincer sur le gravier de l'allée qui, devant la porte, longeait un côté de la maison. Papette frappa de la canne avec colère et gronda « Je parie que c'est ma fille Rose !» Et Amélie, naturellement. « Je ne puis même pas jouir à mon gré de la dernière satisfaction que Dieu m'accordait. » En effet, Rose et sa fille s'avançaient, contentes de surprendre leur visite craintive, Gustave, dont la présence les rassura. Ce fut à lui qu'elles s'adressèrent, après avoir salué Papette, qui, s'étant assis sur le banc de pierre, ne bougeait plus. « Nous venons d'apprendre votre départ pour Paris. Est-ce vrai ?»« Oui, madame, » répondit Gustave, « je pars ce soir. » C'est dommage, au moins pour nous. Pourquoi ? Vous n'avez pas besoin de moi dans ce pays. Vous n'y êtes pas des étrangères. Parbleu, s'écria Papette. D'ailleurs, est-ce qu'elles sont venues à Marraine pour se promener ? Non, elles sont venues pour veiller sur ma santé. Nous ne pouvons guère te soigner, Papette, interrompit Amélie. Tu ne supporterais même pas que nous fussions toujours auprès de toi. Tu as raison, j'aime mieux vivre seule. « Papette est vraiment d'une humeur terrible. Il n'y a que vous, Gustave, qui le ranimiez un peu. Aussi est-ce surtout pour lui qu'on eût souhaité de vous posséder à Marraine plus longtemps. » À ces mots, Papette se pencha sur sa canne et, d'un œil moqueur, il épia cet enfant qui, déjà, savait si bien, à l'exemple de sa mère, jouer de la flatterie et du mensonge. Et, non sans malice, il l'interrogea. « Ton père, comment va-t-il à Paris ?» « Très bien, il ne languit pas trop. Tu vois, on s'habitue à vivre seul. Et puis, ton père s'accommode facilement à tout. » Madame Cassagnol et sa fille rougirent en même temps, honteuses qu'elles furent soudain de ne presque jamais songer à l'homme faible qui, dans son affection dévote, leur pardonnait toujours les pires imprudences. Leur pensée tout entière demeurait, depuis leur arrivée à Marraine, tournée vers l'argent, vers l'héritage qui contenait pour elle le trésor des vertus et des félicités les plus certaines. Aussi bruissantes que des cigales, elles entreprirent une conversation sur la beauté du jardin. Mais, s'apercevant bientôt que ni Gustave ni Papette ne les écoutaient, elles se turent. Gustave se décida vivement à prendre congé. Comme pour se débarrasser d'une corvée, il salua d'abord les deux femmes. Ensuite, calme, grave, il s'approcha de Papette et lui tendit les mains. « Je m'en vais. »« Oui, tu t'en vas. Oui, tu m'abandonnes. » « Oh, voyons. Quand reviendras-tu ? » « Je ne sais pas. Quand tu reviendras, n'oublie pas mon jardin. Viens le voir de temps à autre, il te reconnaîtra. Je vous en prie, taisez-vous. Tu as raison, je me tais. Je te fais de la peine pour rien. » Papette se leva d'un sursaut, saisit Gustave par les épaules et, avec une fièvre de désespoir, il le secoua comme un arbre dans la lumière. Puis, laissant devant le banc de pierre les deux femmes interloquées, il le reconduisit vers la porte qui donnait sur le chemin de Rocasse. Là, il le contempla, une minute de silence, et, d'un élan jaloux, il le pressa longuement sur sa poitrine qui haletait de sanglots. « Adieu, adieu, mon fils, je ne te verrai plus, c'est fini, sois heureux, mon fils !» Délivrant de son étreinte Gustave, qu'il n'eut plus le courage de regarder dans la poussière blonde du chemin, il s'appuya contre le mur pour pleurer. Gustave, sans prononcer une parole, s'éloigna les mains au visage. Son pas était rapide, titubant d'une sorte d'ivresse. Pour se raffermir et pour se consoler, il regarda le ciel si radieux, les jardins remplis de fruits et de verdure. Il rentra dans la ville sans détour, attristé que la présence de Madame Cassagnol et de sa fille eût souillé pour lui, aussi peu que ce fût, l'image de son Languedoc qu'il adorait pour sa grâce souriante et sa généreuse richesse. Le soir même, ses parents, brisés de douleur, l'accompagnèrent, malgré ses protestations, à la gare où, l'automne dernier, sa pauvre mamette lui avait fait, à leur insu certes, ses véritables adieux. Une fois seul dans le compartiment, il pleura tout d'un coup, sans savoir au juste pourquoi. Il pleurait pour tant de raisons, surtout parce qu'il laissait sa mère, si bonne à tout le monde, son père, toujours souffrant, incapable l'un et l'autre, de se résigner d'un cœur ferme dans leur isolement au sacrifice qu'ils consentaient encore pour lui plaire de se priver de lui. Les larmes coulaient, pures et bienfaisantes, sur ses joues qu'il essuyait patiemment avec son mouchoir. Cependant, il regardait avec amour défiler dans la poussière du crépuscule les champs verdâtres de la plaine qui, bientôt, dans la nuit semée d'étoiles, s'évanouirent tout à fait, pareils aux rêves de son jeune passé. Lorsqu'il arriva dans la matinée à la gare de Lyon, Paris resplendissait de soleil ainsi que sa campagne du Languedoc. La rumeur de l'immense ruche laborieuse réveillait en son être le sentiment du courage et de la dignité. Par une sorte de coquetterie, il ne voulut point, en son état de fatigue, se présenter le jour même chez les Rucois. Il employa donc son temps à ranger sa chambre, son petit nid qu'il revoyait charmant de la lumière du ciel et des reflets du jardin du voisinage. Le lendemain, vers 9 heures, il monta chez son maître. Ce fut la mère de Jeanne qui lui ouvrit la porte et, avec un tel étonnement, un tel plaisir, qu'elle poussa un cri. Pour mieux l'interroger sur les péripéties de son voyage, elle l'amena vite, vite, tout au fond de l'appartement où elle était en train, tout à l'heure, d'examiner la baroque collection de prospectus que, depuis 10 ans, elle serrait dans une de ses armoires. Dans la salle à manger, Maître Rucois était penché sur sa table, au milieu d'un tas de paperasses. Il reçut Gustave avec sa bonhomie ordinaire, sans quitter sa chaise, aussi peu troublé que s'ils eussent travaillé ensemble la veille. « Une revue, lui dit-il, a accepté de publier de moi un article, quelques-uns de mes souvenirs d'éditeur. Vous seriez bien aimable, mon petit ami, de recopier très lisiblement ces pages. » « Des souvenirs d'éditeurs, ça doit être bien intéressant. Pour les autres, peut-être, pas pour moi. » Gustave se mit à l'œuvre. Mais Jeanne, il ne songeait qu'à elle, il n'osait en parler, de crainte de trahir sa pensée, la résolution qu'il avait, si douce, de lui confier enfin les désirs de son âme. Elle revint du marché un peu tard. Rien que d'entendre grincer la clé dans la serrure de l'entrée, il trembla d'émotion. Elle eut sans doute le même frémissement de pudeur, de joie si forte qu'elle était douloureuse, car ayant aperçu Gustave debout dans la salle à manger, devant la bibliothèque, elle courut précipitamment s'enfermer dans la cuisine. Il entendit remuer une chaise, des casseroles. Puis, encore coiffée de son chapeau de paille, une cravate de satin rouge au col, elle reparut dans la pénombre du couloir. Et, leste, sur la pointe des pieds, elle s'avança vers Gustave. « Bonjour, lui dit-elle, avez-vous fait un bon voyage ?»«
Oui, mademoiselle, mais triste voyage. »«
C'est vrai, il faut se résigner devant l'inévitable. Et vos parents vont bien ?»«
Très bien, je leur ai beaucoup parlé de vous tous. »«
Ah ? C'était bien naturel, n'est-ce pas ?»«
Sans doute, mais je vous dérange. Tout à l'heure, pendant le déjeuner, nous causerons à notre aise. »
Jeanne disparut dans une clarté de jeunesse bruissante et fraîche. Immobile d'admiration, il la regarda s'éloigner jusqu'au fond du couloir. M. Rucquois, cependant, hochait la tête, taquinait son lorgnon au bout de son long nez, fourrageait de méchante humeur sa barbe hirsute et rare, ou bien, feuilletant ses livres, consultant ses notes qui remplissaient des bouts de papier, il écrivait d'une plume aussi rapide que le vol d'un oiseau. Si toute la copie de M. Rucquois ne servait guère qu'à épouvanter les éditeurs, il donnait du moins à son secrétaire un bel exemple d'application assidue. Aussi, Gustave chérissait-il d'un cœur filial cette maison qui offrait, comme la sienne, un air de modestie constante et, plus que la sienne, une sorte d'insouciance ingénue. À table, il eut une émotion nouvelle de s'asseoir en face de Jeanne, de partager son pain, de saisir une fois encore dans ses yeux la vue pudique de l'amour. Pour elle surtout, il parla de son pays de l'Hérault, de sa pittoresque et gaie cité de marraine, de tout ce riche Languedoc que dominent les vertes Cévennes et que baigne la mer, ce Languedoc dont il avait mieux compris que jamais le dessin harmonieux dans sa diversité et la couleur aussi limpide que hardie. Quand il parla de sa chère mamette qu'il n'avait pu embrasser vivante, il sentit un frisson de piété familiale passer dans la lumière. Le maître et sa femme baissèrent la tête. Il surprit dans les yeux de Jeanne une larme. Le silence régna. Chacun sembla dans sa pensée prier pour soi-même. Pendant que Jeanne enlevait le couvert, M. Rucquois se tourna doucement vers Gustave et lui dit « Votre chagrin est inconsolable, mon ami, je le sais. Mais ne vous laissez pas gagner par la tristesse, ce n'est pas de votre âge. D'ailleurs, j'ai remarqué que chaque fois que le destin nous frappe, c'est pour nous offrir bientôt une compensation. » « Une compensation ? » ?»«
Si, si, vous allez voir ça. »
M. Rucquois résonna de son rire ainsi que d'une clochette fêlée. Gustave le considéra un moment de stupeur sans répondre. Le maître voulait-il, dans ses paroles obscures, signifier que Gustave méritait de recevoir de son effort littéraire une récompense? Alors, il n'était donc plus jaloux, il l'aimait comme un fils? Voulait-il simplement indiquer, d'une façon discrète mais plaisante, qu'il avait découvert ses projets d'union avec Jeanne et qu'il était disposé à les accueillir? Deux jours plus tard, le matin, tandis que Gustave sortait de chez lui pour se rendre rue Merlin, sa concierge lui remit une lettre qui portait le sceau de la Comédie-Française. Aussitôt, une pensée d'orgueil l'éblouit comme un éclair. Puis ce pli, pourtant très attendu, lui devint redoutable. Bouleversé par l'inquiétude, il n'eut pas le courage de le décacheter dans la rue parce qu'il contenait un message de victoire décisive ou un arrêt de condamnation. Alors, se promettant de le décacheter là-haut chez les Rucquois, il partit à la hâte. Là-haut, M. Rucquois achevait de se tailler la barbe et avec quelle maladresse! Jeanne rangeait les papiers et les livres sur la table de la salle à manger. Gustave se présenta d'une allure si brusque, le visage si brillant d'impatience, que M. Rucquois, en reposant ses ciseaux, lui dit « Qu'avez-vous, mon petit ?»«
Voilà, tenez !»
Dès que le maître reconnut sur l'enveloppe que lui tendait Gustave le sceau de la Comédie-Française, il tressaillit d'étonnement et, avec son petit rire de clochette fêlée, il s'écria « Que voulez-vous que je fasse de cette lettre ? Je n'ose pas l'ouvrir. Allons donc, poltron, ouvrez, ouvrez, pas moi !» Gustave, sous le poids d'une honte étrange, baissa le front, ne bougea plus. Mais Jeanne était là, vigilante, anxieuse autant que lui, et qui le ranimait de la chaleur de son affection. Lentement, d'une main tremblante, il ouvrit la lettre. dans un joli rayon de soleil qui égaya la page blanche, il lut tout à coup que la Comédie française acceptait sa pièce en 3 actes. Pâle, il releva la tête dans un ravissement de fierté. Jeanne comprit sa fortune merveilleuse. Ils se regardèrent passionnément en un silence qui parut infini. Et, pénétrés d'une joie aussi profonde qu'une souffrance, ils se rapprochèrent tout à fait l'un de l'autre. M. Rucoin interrompit de nouveau la toilette de sa barbe pour observer les 2 enfants. À la rougeur de leur visage, au tressaillement de leurs mains qui semblaient se chercher, il comprit qu'une grande chose s'annonçait dans son foyer rajeuni ce matin pour eux tous. Il eut un petit sourire furtif, charmant de satisfaction et de bienveillance. Puis, presque aussitôt, son air redevint sévère, les lèvres closes, le lorgnon branlant sur le bout du nez. Jeanne, enfin, interrogea Gustave.
« C'est une bonne nouvelle que vous recevez là. Pourquoi n'en dites-vous rien ? » ?»«
Excusez-moi. Tout d'abord, je n'ai pas pu parler tant j'étais ému, répondit-il les joues brûlantes. « Je n'aurais jamais cru qu'un pareil miracle fût possible, et pourtant je l'espérais. Tenez !» Avec une sorte d'humilité qui demandait presque pardon, il tendit la lettre à M. Rucoin, qui, pour la saisir, eut un étrange mouvement d'hésitation. L'émotion l'empêchait de parler, lui aussi, une émotion de sourde colère, de jalousie, qu'il refoulait en vain. C'est que, tout à l'heure, qui, après qu'il se fût félicité du bonheur, qui, pour son foyer, pouvait être, il n'avait songé qu'à lui-même, éternel vaincu. Et, à son âge, dans le sentiment qu'il avait, malgré tout, de son impuissance et de sa misère croissante, le succès triomphal de son jeune secrétaire lui paraissait un reproche, une sorte d'injure à sa destinée désormais inutile, d'écrivailleur sans récompense, peut-être sans talent. Jeanne lui dit, non sans impatience,
« Tu ne félicites pas Monsieur Gustave ?»«
mais si, cela va de soi.
Je crois bien qu'il nous apporte la chance. »
Certes, au moins pour lui. Tu as raison, il faut avoir de la chance dans la vie. Sinon, rien à faire.
Il y a bien aussi quelques mérites ? » ?»«
Sans doute, sans doute. Ah, ses parents vont être enchantés. Et que penseront de sa victoire ses compatriotes de ma reine ?»«
Oh, ma foi, murmura Gustave, sauf le contentement de mes parents et de Papette Rességuier, le reste ne m'intéresse pas beaucoup. »
Peu à peu, M. Rucoin revenait à la joie de tout à l'heure, à sa vision du bonheur qui, peut-être, ce matin, s'éveillait sur son pauvre foyer. Et sur un ton d'allégresse, il repartit. « Eh bien, je n'ai plus rien à vous souhaiter maintenant, Gustave. Tenez, voici votre lettre. Je ne suis plus grand-chose auprès de vous. » « Par exemple, protesta une seconde fois Gustave, qui voulait de tout son cœur associer son bienfaiteur à sa fierté radieuse. « Est-ce que vous ne serez pas toujours pour moi le maître qui, dans ce grand Paris où j'étais perdu, m'a donné si généreusement la force divine de travailler et d'espérer ?» À mesure qu'il s'avançait, plein d'affection et de gratitude, M. Rucoin reculait vers la bibliothèque en bredouillant. « Moi aussi, pourtant, j'ai eu de la gloire, quand j'étais éditeur, de publier du Michelet, du Lamartine, du Victor Hugo. » Mais ce mérite ne vaut pas, je l'avoue, celui de forcer par une œuvre personnelle les portes de la renommée. Car demain, Gustave, vous serez célèbre. Allons, mon petit, je vous félicite. Soyons heureux, au moins grâce à vous. Si vous désirez télégraphier la bonne nouvelle à vos parents, je vous autorise à sortir tout de suite.
Non, merci.
Pourquoi non ?
Je suis encore trop ému. J'aime mieux rester ici ce matin et jouir de mon bonheur au milieu de vous tous.
Comme vous voudrez. »
M. Rucoin, ayant pris une chaise, s'assit à sa place habituelle. Jeanne s'en alla au fond de l'appartement annoncer à sa mère la grande nouvelle. Et la bonne Madame Rucoin, sa grosse figure rubiconte illuminée d'orgueil, accourut dard féliciter à son tour Gustave.
« Mon enfant, c'est donc vrai que vous avez réussi à la Comédie-Française ?»
« Oui, madame, le miracle. »
Il n'y a pas de miracle quand on a du talent. Le succès est une chose toute naturelle, fatale, sur quoi l'on doit toujours compter. Oh, que je suis heureuse et fière, vous savez. »
« Oui, madame. »
« Vous êtes si bien des nôtres. Vous vous faites aimer si franchement. »
Madame Rucoin lui pétrissait les mains avec chaleur, à pointer vers lui, comme pour le baiser aux joues, ses lèvres rondes et luisantes.
Et Gustave, ne sachant de quelle parole la remercier de son effusion, l'embrassa soudain, aussi bravement qu'il eût embrassé sa mère. M. Rucoix, sans lever la tête, tourmentait ses paperasses sur la table. Comme les congratulations derrière lui se multipliaient trop longtemps à son gré, il sentait remonter en lui le chagrin humiliant de sa misère et de son impuissance. Parce qu'il en souffrait affreusement, ainsi que d'un mal qu'à présent il redoutait incurable, il maugréa
« du calme, il faut que je travaille !»«
Mais mon ami travaille !» répliqua Madame Rucoix avec une témérité extraordinaire. « On a bien le droit, cependant, de féliciter cet enfant !»«
Oui, c'est entendu. Voilà pour cet enfant un succès magnifique, inespéré. Seulement, défendons-nous toujours des illusions !»
« Oh, papa !»«
Ma fille, j'ai de l'expérience. Autrefois, j'ai prospéré moi aussi. Ça ne m'a pas empêché de devenir pauvre.
Tu étais dans les affaires.
Allons, assez !»
Bourru, agitant sa chaise, M. Rucoix embrouillait ses paperasses au lieu de les ordonner. On comprit sa jalousie mauvaise dont il souffrait le premier et dont il avait honte. Alors, tandis que Gustave, docile, respectueux, s'asseyait en face de lui, les deux femmes s'éloignèrent sans bruit.